quel avenir avec le nucléaire? Le collectif L'île radiée organise cette semaine 3 journées de rencontres et de débats sur le thème de l'atome et de ses déchets. Ça se passe vendredi, samedi, dimanche à Lille. Pour en parler et pour parler aussi de la lutte contre le projet de poubelle radioactive à Bure dans la Meuse, on a rencontré des personnes du collectif L'île radiée, Camille et Capucine.
C'est un collectif en fait qui est né fin février de 2018, c'est-à-dire juste après l'expulsion du Bois-le-Jus. En fait, pendant 1 an et demi, le Bois-le-Jus à Bure était occupé pour empêcher un certain nombre de travaux et d'études de se faire. Il a donc été évacué en février et suite à cela, en fait, il y a eu un mouvement de solidarité nationale assez important. En fait, il y a eu plusieurs dizaines de comités contre l'enfouissement des déchets nucléaires qui se sont créés, et dont celui de Lille.
L'idée de ce collectif, c'est de relayer cette lutte sociale et écologique ici, dans la région Hauts-de-France.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est à la fois ça s'inscrit à la fois dans une optique de décentralisation de la lutte à Bure, mais aussi effectivement dans une idée de relais de ce qui se passe là-bas en termes d'actualité. Et donc on organise aussi des événements qui ont une visée aussi informative par rapport à ce projet qui est finalement très peu connu en France et donc dont ce festival fait partie.
Oui, cette optique de décentralisation, en fait, elle est très importante parce que du coup, comme je vous disais, à Bure, il y a beaucoup de désobéissance civile. Mais là, particulièrement depuis juin 2017... en fait, il y a vraiment une très grosse répression à Bure, avec notamment un escadron de gendarmerie spécialement créé pour surveiller les opposants. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avec une voiture qui passe toutes les demi-heures devant toutes les maisons des opposants, les filmant, etc. Et du coup, ce côté désobéissance civile, en fait, il est plus beaucoup possible à Bure même. Donc, pour protester, en fait, eh bien, les opposants à Bure se sont dit « il faut absolument décentraliser la lutte et faire en sorte que ça devienne une cause nationale et non pas juste une cause d'intérêt régional ».
On va revenir à la base de cette situation. À Bure, il y a ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Quelles sont les raisons de l'opposition, de votre opposition à ce projet ?
Les raisons elles sont multiples. Enfin, la question qui se pose souvent, c'est voilà, on a créé un certain nombre de déchets, il faut bien en faire quelque chose. Aujourd'hui, donc on partage cette idée, mais on pense que l'enfouissement des déchets à 500 mètres sous terre n'est pas nécessairement la bonne ni l'unique solution. Mais par ailleurs, on pense aussi que il faudrait poser un grand débat sur la gestion de ces déchets et avant tout sur le nucléaire. Parce que on sait que le projet CIGEO, donc d'enfouissement des déchets à Bure, est un projet qui permettra à la filière nucléaire de justifier sa poursuite et donc l'empêcher. C'est aussi poser la question de la poursuite ou non du nucléaire en France, sachant que voilà, on est un collectif qui lutte contre le projet CIGEO, mais avant tout contre le nucléaire. Car voilà, c'est bien ça le fond du sujet, c'est qu'on pense qu'il faut sortir du nucléaire et ensuite poser la question de ces déchets.
Moi, j'aimerais bien d'abord revenir sur ce que c'est, du coup, ce projet CIGEO. C'est donc enfouir à 500 mètres sous terre les déchets nucléaires issus des centrales nucléaires, donc les déchets issus du cœur du réacteur. Donc, c'est des déchets qui sont dangereux pour toute forme de vie pendant plus de 100 000 ans. Et le but étant, en les stockant à 500 mètres sous terre, de miser sur la barrière naturelle du coup que représentent ces 500 mètres qui séparent les déchets du plancher des vaches pour que d'ici à ce que la radioactivité remonte lentement et sûrement année après année, eh bien, les déchets ne soient plus dangereux pour les humains et pour leur environnement. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, comme en Allemagne, il y a eu 2 projets similaires qui ont totalement foiré, qui ont été un fiasco. À savoir, du coup, aux États-Unis, c'est le projet WIPP, où il y a eu du coup incendie et explosion de colis. Et l'incendie a mis plusieurs mois pour être maîtrisé. Et en Allemagne, c'est un projet dans la mine de sel de Haas, A2SE, qui est du coup, là les déchets sont enterrés à 700 mètres de profondeur et ils sont beaucoup moins dangereux qu'à Bure. Et pour autant, en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait des infiltrations d'eau et également que la géologie faisait que les déchets en fait étaient compressés et du coup en fait se mettaient à fuir. Et par exemple, en Allemagne, là, le Parlement a voté récemment qu'il fallait sortir ces déchets, mais en fait, ils ne pourront pas être sortis avant 2032, le temps de consolider les fuites et les tunnels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce danger-là, c'est qu'une fois que ces déchets sont mis, eh bien, c'est très difficile, en cas de problème, de les sortir. Et également, l'autre chose qui fait qu'on est contre ce projet donc appelé CIGEO, c'est le fait que même en temps normal, en fait, il va émettre en permanence des gaz radioactifs. Parce que pour que l'hydrogène qui sera dégagé par ces déchets ne devienne pas explosif, eh bien, il faut en permanence ventiler les souterrains. Et donc, en permanence, il va y avoir des gaz radioactifs qui vont être dégagés. Alors, ce que nous disent les nucléocrates français, c'est que cette radioactivité ne sera pas supérieure aux normes internationales, ce qui est vrai. Mais, en fait, les normes internationales sont basées sur ce qui s'est passé juste après Hiroshima et Nagasaki, à savoir une exposition forte pendant un temps court, on va dire. Mais là, en fait, ce qu'il se passe, c'est que au plus la recherche sur la radioactivité progresse, au plus on se rend compte que des mini-doses accumulées dans le temps jour après jour, en fait, eh bien, augmentent considérablement vos risques de cancer. Et donc, c'est ce qui se passera pour la région Lorraine, Champagne-Ardenne, quoi. C'est original bagaille, c'est la vie à son boy. Check Climan, l'impoint pour attaquer. Trop beaucoup bombe nucléaire veut dérouler dans la partie boy. C'est flip flip bad. Oh la la, oh la la, oh la la. Check Samanaman. Militant biche, vote green, écolo. La nature, j'en suis agro. L'uranium, c'est pas bon pour l'homme. Le radium, pas tellement économe. Lève les bras, manifeste-toi, arrêtez-moi tout ça. Ne plus rien faire, ne plus se taire contre la raison d'état. Bon, dis-moi, moi, quoi mettre dans un voile en haut. Que dire, que faire? Nous voilà partis pour le nucléaire. En vérité, je vous le dis, on se fiche bien de notre avis. Pourquoi se taire? Faudrait bien stopper le nucléaire. En vérité, je vous le dis, il y a moins dangereux comme énergie.
On est toujours en compagnie de Camille et Capucine du collectif L'Île Radiée.
Alors ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires ne date pas d'hier, ça fait plus de 20 ans que le projet est en cours. Comment s'organise la lutte sur place avec les habitants et aussi les militants écolos, j'imagine ?
Alors, effectivement, ce projet d'enfouissement, il existe depuis très longtemps, en fait. Il existe carrément depuis les années 80. Au départ, Bure n'était même pas choisi comme un lieu pour enterrer les déchets. Il y avait trois autres lieux, et dans ces trois autres lieux, en fait, l'opposition locale a été extrêmement forte, avec beaucoup d'actions de désobéissance civile déjà à cette époque. Et du coup, l'Agence nationale des déchets radioactifs, qui gère du coup ce projet, a dû plier bagage dans chacun des trois lieux. Alors l'État a un petit peu réfléchi et il s'est dit, eh bien en fait, on va changer notre stratégie, on va y aller de manière progressive. À savoir que du coup, dans les années 80, lorsqu'ils se sont fait jeter, eh bien l'État arrivait avec ses gros sabots et disait, on va enfouir des déchets nucléaires dans votre sol. Ce que l'État a appris de par son expérience, c'est il faut aller de manière progressive. Alors, c'est-à-dire, ils sont allés à Bure en disant, bonjour Bure, on va construire trois souterrains, dont un à Bure et deux autres autre part en France, et des souterrains en fait qui sont destinés à faire avancer la recherche sur la radioactivité. Donc pour ça, on va construire un laboratoire. Est-ce que vous voulez bien faire avancer la science ? Donc en fait, c'est très dur pour les locaux d'être contre la science, en fait. Être contre la science, c'est très difficile. Voilà, on se fait immédiatement taxer d'anti-progrès, etc. Et donc, l'opposition locale, dans un premier temps, n'a pas été très forte parce que c'est difficile de faire mobiliser les gens contre juste un projet de laboratoire sur la radioactivité. Ce laboratoire à Bure a été le seul qui a été construit, en fait, alors que l'État avait promis deux autres laboratoires. Et une fois que ce laboratoire a été construit, et au bout de quelques années, eh bien, l'État a dit, eh bien, en fait, Bure va être retenu pour enfouir des déchets nucléaires là-bas. Donc voilà, ça s'est fait du coup de manière progressive. Et en parallèle, l'État a dépensé énormément d'argent pour acheter, on va dire, les collectivités locales. À savoir que là, actuellement, il y a 30 millions d'euros qui sont chaque année déversés au département de la Meuse et 30 millions d'euros qui sont chaque année versés au département de la Haute-Marne pour ce projet. Et ce qui fait déjà, du coup, plus de 1 milliard d'euros versés en subventions et également en investissement par EDF, par Areva, juste sur ces deux départements, 1 milliard d'euros. Ce qui est vraiment énorme, en fait, pour un projet qui n'a même pas encore d'existence juridique légale. L'opposition locale, elle a, dans un premier temps, essayé de jouer le jeu, on va dire, de la démocratie, à savoir participer à un débat national qui avait lieu en 2005, si je ne me trompe pas. Et ce débat, du coup, a statué sur le fait que la population était majoritairement contre et qu'il fallait, du coup, d'abord un projet test, en fait, du coup, à petite échelle, avec des vrais déchets nucléaires, pour voir si c'était viable ou pas ce projet. Du coup, c'est ce qu'il en est ressorti de cette commission de débat public. Mais en fait, l'État a décidé de ne pas suivre cette voie-là. Du coup, en 2012, il y a eu un autre débat, et là, les associations ont décidé de boycotter le débat. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça faisait vraiment beaucoup plus de bruit, que c'était beaucoup plus efficace de boycotter un débat que d'y participer, en fait. Dans la presse, eh bien, ça fait beaucoup plus de bruit. Et donc, voilà, en fait, l'opposition, en se rendant compte qu'il y avait un déni de démocratie, s'est radicalisée au fur et à mesure, si j'ose dire, en tout cas, a de plus en plus joué la carte du « eh bien voilà, on y va frontalement face à un État qui, de toute façon, arrive et ne connaît que la matraque comme réponse ». En juin 2016, à peu près, il y a eu le Bois Lejus qui a été occupé par tout un tas de gens très hétéroclites, très différents, voilà, de tous âges. Et bon, il a été évacué d'abord une première fois, mais très rapidement réoccupé. Et pendant un an et demi, du coup, on peut dire qu'il y a eu une occupation qui s'est terminée en février 2017. Il y a eu pas mal de coups d'éclat au niveau de la désobéissance civile, notamment en fait en février 2017, les grilles de l'Agence nationale des déchets radioactifs, pour faire simple, qui ont été enlevées. Et ça a été une action très populaire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah bien, on aurait dû faire ça il y a 20 ans et l'Agence nationale serait repartie ». Et en fait, l'État, en voyant que du coup, il y avait vraiment une opposition très forte qui était prête à être dans la désobéissance civile, en fait, elle a vraiment donné un sacré tour de vis en, du coup, comme je vous disais, créant un escadron de gendarmerie en permanence contre les opposants, ce qui, en fait, a considérablement affaibli la lutte. Et notamment, là, il a créé ce qu'il appelle une association de malfaiteurs, c'est-à-dire c'est un concept très, très flou, qui permet de mener une enquête sur à peu près tout et n'importe quoi et de convoquer n'importe quel opposant qui a été vu même quelquefois à Bure pour lui demander « Eh bien voilà, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? À qui est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous reconnaissez telle personne sur ces photos ?» etc. Et le but en fait de l'État, c'est de mieux cerner en fait qui sont les gens qui, on va dire, s'investissent le plus dans la lutte. Et ce sont ces gens-là qui actuellement sont, enfin c'est une partie de ces gens-là qui actuellement sont dans l'association de malfaiteurs, donc ils sont 8 à peu près je pense. Et c'est du coup ces gens-là en fait désormais ont interdiction de se voir les uns les autres. C'était des gens qui par exemple étaient dans l'organisation de l'anti-REP, donc le fait d'essayer de collecter des fonds pour les avocats à Bure. C'était des gens qui étaient dans la legal team, donc essayer d'apporter un soutien juridique aux gens poursuivis à Bure. C'était des gens qui, par exemple, s'occupaient de l'approvisionnement en nourriture pour les opposants. Ce sont aussi des gens qui parlent aux médias, qui sont dans l'association Sortir du nucléaire. Et du coup, c'est des gens qui... voilà, avait vraiment tissé de nombreux liens avec tout un tas d'habitants locaux tels que des fermiers, des retraités, différentes associations. Et ces gens-là, du coup, ont interdiction de se voir les uns les autres, ont interdiction de se rendre à Bure, voire dans le département de la Meuse, et ont également interdiction de quitter le territoire français. Donc là, les opposants sont en train de contester en justice ces interdictions. Et donc, ils ont été déboutés par la Cour de cassation, mais qu'à cela ne tienne, ils ont décidé de poursuivre leur action devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et on espère que la Cour européenne des droits de l'homme leur donnera raison. Et à défaut, eh bien, au moins, ça médiatise toujours la lutte et l'injustice que ces gens subissent.
Il y a une chaîne YouTube qui a été créée récemment, qui s'appelle « Parole de malfaiteurs ». avec des témoignages vidéo de ses opposants qui sont actuellement sous contrôle judiciaire et qui témoignent parole de malfaiteurs.
Donc plus de ZAD dans le bois, mais quand même des lieux de contestation et puis aussi des lieux où les gens peuvent s'impliquer, les gens de l'extérieur.
Oui, alors effectivement plus de ZAD, mais il y a à Bure donc des différentes maisons qui ont été achetées par des particuliers et des associations qui luttent contre le nucléaire, le réseau Sortir Nucléaire et des associations locales dans lesquelles vivent les opposants, mais aussi qui sont des lieux d'accueil. Alors la maison de la résistance, c'est une maison qui se trouve au centre du petit village de Bure, qui est la maison historique et qui est le lieu d'accueil où se déroule un certain nombre d'événements, des projections, des débats, des ateliers, etc. Et il y a d'autres lieux aux alentours de Bure, comme la maison qui s'appelle La Franchie à Mandres, à quelques kilomètres, un jardin collectif du maraîchage à quelques kilomètres aussi, une maison. Une autre maison qui a été achetée, qui se situe sur le tracé de la ligne de chemin de fer qui a vocation à être construite pour acheminer les déchets nucléaires. Donc voilà, ce sont un certain nombre de lieux, de lieux de vie dans des maisons à Bure et aux alentours.
Que nos journées sont longues à en compter les secondes avant de s'apercevoir qu'il n'y a plus de soleil. La terre est un dépotoir, le monde une usine à cons qui ne savent que s'émouvoir quand les écolos montent le ton. Cette planète est à moi et à mon copain Areva qui veut que nous vivions heureux avec nos enfants à trois bras. Il y a donc, comme qui dirait, une légère faille, comme un navire sans gouvernail.
Dernière partie de notre entretien avec Camille et Capucine du collectif L'Île Radiée.
Vous organisez ces trois jours, quel avenir avec le nucléaire? Pourquoi organiser cet événement?
Déjà, c'est pour informer sur le nucléaire en général, mais également sur l'enfouissement des déchets nucléaires en particulier. C'est également pour se retrouver, on va dire, pour tisser des liens les uns avec les autres. Et c'est également pour financer la caisse anti-répression qui permet du coup de financer les avocats notamment qui défendent au quotidien les gens poursuivis à Bure pour leurs activités.
Alors lors de ces trois jours que vous organisez ici à Lille, il y aura des gens de Bure qui vont venir témoigner. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors effectivement, durant le festival que nous organisons à Lille, c'est 11, 12, 13 janvier, il y aura quelques hiboux, quelques opposants qui viendront de Bure et qui vont venir alors d'abord vendredi soir au CCL, le Centre culturel libertaire de Lille, pour avoir une discussion sur l'histoire de cette lutte, du projet et les actualités. Ensuite, il y aura aussi donc d'autres personnes qui ont vécu, alors notamment Marie qui a longtemps vécu à la maison de la résistance à Bure et qui va venir pour faire sa conférence gesticulée Autostop Bure samedi soir au café Les Sarrasins et dimanche à l'Univers.
Dans les autres éléments du programme, on peut signaler, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, qui se passent pendant ces trois jours, ce qui se passe du côté du café les Sarrasins, l'écriture de lettres. Qu'est-ce que c'est le concept alors?
Oui, donc effectivement, samedi après-midi au Sarrasin, de 15h30 à 17h30, il y aura l'association Du vent dans les mots qui interviendra pour un atelier d'écriture de lettres ouvertes. Des lettres atomiques et détonantes que vous pourrez écrire. Donc c'est un atelier qui est tout public et qui permettra d'écrire des lettres justement sur le thème du nucléaire. Alors pour alerter, pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour en parler avec ce qu'on ressent, sa colère, et on pourra imaginer pouvoir les exposer, les lire, Pourquoi pas à une autre occasion, ça pourrait être un deuxième temps de cet événement.
On parle aussi de ce qui se passe le dimanche au cinéma L'Univers, avec deux temps qu'on peut noter, c'est la projection d'un film, et puis la rencontre autour des alternatives justement au nucléaire.
Oui, effectivement, de 15h30 à 17h, du coup, il y aura une sorte de discussion, débat, dont le thème c'est « Les alternatives citoyennes, une solution pour sortir du nucléaire ?» Point d'interrogation. Donc il y aura des associations comme Solis et Solaire en Or. Il y aura aussi Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais qui est connu pour faire des scénarios sur la sortie du nucléaire ou sur la réduction des consommations d'énergie en Nord-Pas-de-Calais. Il y aura aussi la coopérative Enercop qui fournit de l'électricité dite renouvelable. Voilà, en fait là on a invité un panel d'associations et de coopératives qui du coup se regroupent bien, donc avec Virage Énergie qui montre que dans tous les cas, il faudra réduire nos consommations d'énergie.
Dimanche soir à l'Univers, il y aura à 20h la projection du film Nucléaire l'impasse française, qui sera suivi d'un débat. Ce film est très intéressant parce qu'il dévoile un peu les travers d'EDF qui mise aujourd'hui sur le nouveau réacteur EPR, qu'il est en train de construire à la fois à Flamanville, mais aussi à Hinkley Point au Royaume-Uni, pour relancer la filière nucléaire, notamment en France. Dans ce film, on voit bien l'impasse, notamment financière, dans laquelle EDF se trouve avec la construction de ces EPR qui ont pris énormément de retard dans leur construction. Et qui, alors, pour Flamanville, n'est toujours pas terminé, mais pourtant coûte déjà 10 milliards d'euros aujourd'hui, alors qu'il devait en coûter 3 milliards.
Alors, ces événements, cette série d'événements est pensée comme un moment d'information, mais aussi de convivialité. Il y a des moments de repas, des moments de fête et de musique aussi.
D'information, mais je dirais aussi de débat, parce que on a comme objectif de pouvoir débattre ensemble de tous ces sujets-là, notamment le nucléaire, qui est un sujet très complexe. Et oui, et ça a vocation à être un événement convivial. Donc il y aura pas mal de repas qui sont tous véganes et à prix libre. Partager entre chaque événement et de la musique. Vendredi soir au CCL à partir de 21h, mais également le samedi soir au Sarrazin à partir de 21h également avec les Buraleurs, qui est un groupe qui vient de Meurthe-et-Moselle et qui chante des chansons des chansons à texte liées au nucléaire.
Tout est à prix libre, c'est-à-dire que vous n'ayez pas un rond ou que vous vouliez dépenser un peu d'argent, vous pouvez venir. La seule chose qui n'est pas à prix libre, c'est les boissons alcoolisées. Mais sinon, voilà, vous pouvez tout à fait venir et manger et vous amuser et vous informer, peu importe que vous soyez riche ou pauvre.
Camille et Capucine du collectif L'Île Radiée, la série d'événements Quel avenir avec le nucléaire ? Ça se passe cette semaine, les 11, 12 et 13 janvier, à Lille, au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar, au café coopératif Les Sarrasins rue des Sarrasins et au cinéma L'Univers rue Georges Danton.